Bonjour à chacune, à chacun. Merci beaucoup, Maryse, pour ce chemin d'écoute dans lequel tu nous as conduits. Et aujourd'hui, on l'a dit, on continue notre parcours dans cette campagne, hein, écoute, cette campagne de notre union d'église. Et pour commencer, une petite question. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le meilleur moyen pour mieux entendre quelqu'un ? Quelqu'un vous parle, et pour mieux l'entendre, quelle est votre astuce, quel est votre moyen ? L'écouter ? L'appareil auditif ? Le regarder ? Alors, une réponse. Écouter les autres, c'est encore le meilleur moyen de les entendre, la meilleure façon d'entendre ce qu'ils disent, disait un humoriste du siècle passé. Et avec cette citation en tête, je vous invite à suivre ce que le pasteur que vous connaissez, hein, Florence Vancoy, nous a proposé dans le cadre de notre campagne sur l'écoute. Et je vous invite à rentrer dans un lointain passé, dans un texte biblique où on nous parle d'un jeune serviteur qui s'appelait Samuel. Et nous lisons au chapitre 3 du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». « Je ne t'ai pas appelé, » dit Élie. « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel ». L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. »« Non, mon enfant, » répondit Élie, « je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel ». Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Comme les autres fois, il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur, écoute !» Le Seigneur déclara à Samuel « Je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni les sacrifices ni les offrandes ne pourront jamais effacer son péché. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes du sanctuaire. Il craignait de raconter sa vision à Élie. Mais Élie l'appela. « Samuel, mon enfant !»«
Oui, maître, » répondit-il.
« Que t'a dit le Seigneur ?» demanda Élie.
« Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot de ce que Dieu t'a dit, je veux qu'il t'inflige la plus terrible des punitions. »
Alors Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. Élie déclara, « C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » Samuel devint grand, et le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Amen. Ce texte nous plonge dans l'histoire de Samuel, de ce personnage biblique bien connu. Et si on lit les deux chapitres précédents, on nous raconte l'histoire de sa naissance et du vœu de sa mère qu'il soit au service de Dieu toute sa vie. Pour cela, elle l'amène, une fois qu'il était enfant, peut-être entre 5 et 10 ans, elle l'amène chez le grand prêtre de cette époque, chez Élie. Et on se souvient qu'on vit dans cette période des juges en Israël, cette période après la sortie d'Égypte, une fois que le peuple est entré en Canaan, et avant que les rois n'arrivent. Et la tente de la rencontre, le tabernacle que Moïse avait fait construire dans le désert, il était toujours là. Et c'est là que Dieu avait pris l'habitude de venir parler, de venir à la rencontre de l'être humain. Et le livre de l'Exode précise même que Moïse parlait avec Dieu comme à un ami, face à face, un lieu où Dieu parle, un lieu où Dieu est présent. Mais il se trouve qu'à l'époque de Samuel, Dieu parlait moins souvent que précédemment. Et cet épisode qu'on appelle souvent l'appel de Samuel, même si on pourrait aussi l'appeler l'écoute de Samuel, vient justement montrer une situation où Dieu parle. Il parle à qui ? Il parle à son serviteur. Samuel servait le Seigneur. Samuel apprend, aux côtés du grand prêtre Élie, à vivre son service de Dieu, à servir Dieu dans son quotidien, dans le tabernacle et puis dans tous les différents services qu'il fallait faire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail, mais peut-être dans sa passion pour le service, Samuel fait quelque chose d'interdit. Il dort près du coffre de l'Alliance. Vous savez, ce coffre ou cette arche, comme on dit, c'était un coffre où Moïse, qu'il avait fait construire et où il avait mis les deux tables de la loi, notamment, pour que le peuple se souvienne de ce que Dieu avait fait pour lui et comme signe de la présence de Dieu parmi son peuple. Et ce coffre, il était placé dans une partie à part du tabernacle, dans un lieu très saint, et seul le grand prêtre pouvait y accéder. On peut se demander pourquoi Samuel était là. Est-ce que c'était de son propre chef, de passion pour Dieu, ou est-ce que c'était Élie par négligence qui laissait Samuel dormir près du coffre, comme il pouvait négliger le comportement de ses fils, on le verra notamment dimanche prochain. On ne sait pas. Mais ce qu'on peut retirer de cette posture de Samuel, c'est qu'en se plaçant au plus près de ce qui représentait la présence de Dieu, Samuel semble vouloir être au plus proche de celui qu'il sert. Il veut être au plus proche de Dieu. Il veut être dans la présence même de Dieu. Et c'est l'attitude du serviteur. Vivre
dans la présence de Dieu. Et cette vie dans la présence de Dieu, bien sûr, à son écoute, cette vie de service, elle peut nous inspirer pour notre propre vie de serviteur et de servante de Dieu. Et vous savez, dans une église, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de bonnes choses, qu'on appelle d'ailleurs service, souvent, à juste titre. Mais à travers cette histoire de Samuel, j'aimerais vous inviter à voir comment vivre notre service envers Dieu, à vivre dans sa présence, en étant conscient que Dieu est présent. Et il est présent malgré nous. Et on ne pourra rien faire, rien pour qu'il s'absente. Et pourtant, combien de fois est-ce qu'on n'a pas dit à Dieu « Mais pourquoi t'es pas là ? Pourquoi tu ne fais rien ?» Et si c'est une question que tu te poses en ce moment, prends pour toi cette parole que nous avons lue, cette parole, cette histoire qui nous montre un Dieu présent. Certains font le parallèle du service au tabernacle, au service dans le temple et au service dans l'église. Continue ce parallèle en disant qu'on peut comparer le service du prêtre, Élie, à celui du pasteur d'aujourd'hui. Pourquoi pas ? Il y a de bonnes raisons pour faire ce parallèle. Mais ce qui ressort plus du texte, c'est que si Samuel est au service de Dieu, l'auteur précise aussi que Samuel est au service d'Élie, au service d'un être humain, au service de l'autre. Et on le voit notamment avec le vocabulaire du service utilisé par l'auteur. D'ailleurs, l'auteur s'amuse un petit peu à montrer que le lien du service entre Samuel et Dieu est le même que celui entre Samuel et Élie. Et c'est pour ça que dans le texte, j'ai volontairement évoqué entre parenthèses ce terme « serviteur » au lieu du terme « enfant » ou « mon fils » qui est parfois utilisé. Un double jeu. Et c'est comme si l'auteur voulait nous montrer que être au service de Dieu et être au service de l'autre, c'est quelque chose d'indissociable. Et c'est d'ailleurs l'un des reproches que Jésus fera aux pharisiens. Les pharisiens ont mis l'accent sur le service de Dieu, un service pour les purs, pour ceux qui sont saints, ceux qui sont parfaits. Mais on sait que Jésus leur reprochera de ne pas servir leur prochain. On sait qu'ils ont même asservi l'autre, asservi la notion de service, perverti cette notion de service. Et on sait malheureusement que la notion de service a aussi été pervertie en esclavage. Et aussi dans l'histoire de l'Église. Non, Dieu n'est pas pour l'esclavage. Mais si on veut servir Dieu, si on veut marcher à sa suite, il faut forcément servir son prochain. Et je vous laisse lire l'histoire du bon samaritain qui nous explique qui est notre prochain. Être au service de Dieu, c'est être au service de l'autre. Mais être au service, c'est être au service des autres, on l'a dit, mais c'est aussi, par extension, être au service du monde qui nous entoure. Et c'est intéressant que notre texte relève l'impact du service de Samuel envers Dieu, son service envers Dieu, envers le grand prêtre Élie, mais aussi envers tout le peuple d'Israël. C'est ainsi que tout le peuple d'Israël, du nord au sud, de Dan à Beersheba, ont su que Samuel était un prophète en Israël. Et les chapitres suivants nous montrent que Samuel était aussi un juge, quelqu'un qui dirigeait, quelqu'un qui était au service des autres, au service de ceux qui l'entouraient, un petit peu à la manière de Déborah ou de Moïse qui l'ont précédé, ou d'autres. Et on peut se demander si Dieu ne nous appelle pas, nous, en tant qu'Église, à être au service de ce monde qui nous entoure, dans ce monde qui va de Dan à Beersheba ou de Lille à Cannes pour la France, peut-être
de grâce à la croisette? Est-ce que ce n'est pas aussi ça, être au service de Dieu? Être au service du monde. Et c'est vrai, on peut s'interroger pour soi-même, et on peut se demander comment moi, je peux être dans mon quotidien au service de ceux que je croise, mais je vous invite aussi à penser ce service de façon communautaire, en tant qu'Église. Comment continuer à être au service du monde? Eh bien, il semble que notre texte mettre en avant le fait que se mettre au service soit intimement lié avec l'écoute, avec le fait d'écouter. Et toujours dans cette dynamique communautaire, j'aimerais qu'on réfléchisse à l'écoute de l'Église envers le monde. Comment notre Église écoute-t-elle le monde? Comment peut-on continuer à être à l'écoute de ce monde? J'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait le week-end dernier, dans notre week-end d'église, où on a essayé à écouter ensemble ce que Dieu voulait pour nous. Rester à l'écoute du monde, c'est essentiel pour mieux le servir. C'est essentiel pour mieux le comprendre. Pour mieux comprendre ce monde qui souffre et qui a tant besoin de Dieu. Qui a tant besoin que l'Église lui montre de l'amour, que l'Église lui montre de la générosité, de l'accueil, que l'Église lui montre le chemin du salut. Alors revenons à notre texte et au serviteur Samuel. Samuel, tout au long du texte, reste à l'écoute d'Élie. Alors, dans la première partie, évidemment, où il accepte ses allers-retours entre son lit et celui d'Élie, du grand prêtre. Personnellement, j'ai pas le sommeil aussi léger que Samuel, et j'aurais eu beaucoup de mal à me lever et retourner voir Élie, surtout si la première fois il m'avait dit que c'est pas lui qui m'avait appelé. Je serais resté dormir, ou j'aurais peut-être fait semblant. Mais, et je suis sûr que j'aurais pas été le seul, non? Mais Samuel est à l'écoute de l'autre et il est prêt à entrecouper sa nuit pour aller écouter Élie. Bon, vous me direz, il avait peut-être pas trop le choix. Parce que vu comment Élie lui demande, l'oblige à lui dire ce que le message de Dieu le message que Dieu lui a donné pendant la nuit, on peut penser qu'il n'avait pas trop le choix. C'est possible, mais nous, aujourd'hui, on n'est heureusement pas souvent forcé d'écouter l'autre. On a souvent le choix d'écouter ses parents, le choix d'écouter ses enfants, le choix d'écouter ses collègues, sa collègue de travail, celle justement avec laquelle on a du mal à travailler. On a le choix d'écouter son conjoint et on a le choix d'écouter l'autre. Et écouter l'autre, quand on n'est pas forcé de le faire, eh bien, c'est se mettre au service de l'autre. Comme Samuel était au service d'Élie dans le tabernacle. Et je cite une collègue pasteur de notre union, que plusieurs d'entre vous connaissent sûrement, Laetitia Chamard, qui écrit ceci à propos de l'écoute de l'autre. Écouter l'autre, c'est prendre simplement le temps d'être là, de se tenir proche et d'écouter, de prendre avec soi ses soucis et ses préoccupations, et c'est lui laisser un espace de liberté pour qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il a sur son cœur. Et c'est ensuite l'occasion d'exprimer notre empathie, notre compréhension. Peu importe, si nous ne savons pas quoi dire, dans un premier temps, nous offrons notre temps. Et c'est déjà une belle preuve d'amour. Oui, être à l'écoute de l'autre, je crois que c'est aussi, d'une certaine manière, se mettre à l'écoute de Dieu
de ce que Dieu veut que je fasse pour l'autre. Et justement, être à l'écoute de Dieu, c'est quand même ce que ce texte nous montre de Samuel. Alors certes, le message que Dieu lui demande de transmettre est très raide, difficile. Ce n'est peut-être pas ce qu'on entend de Dieu tous les jours. Mais toujours est-il que Samuel se met à l'écoute de Dieu, tout naturellement. Et il le fait naturellement, lorsque Élie semble lui indiquer que c'est Dieu qui essaye de lui parler. Je trouve que ça montre les qualités d'enseignant d'Élie. C'est sûr que quand on lit ce texte, on a plutôt envie, je ne sais pas vous, mais on a plutôt envie de s'identifier à Samuel plutôt qu'à Élie. Pour nous, ce grand prêtre, qui n'est plus digne de l'être parce qu'il laisse vivre sa famille dans le péché, est-ce qu'on n'a pas tendance, des fois, à être un petit peu hâtif dans notre jugement ? Si Élie aurait dû intervenir, selon ce que Dieu a dit, s'il aurait dû intervenir à cause de ce que ses fils faisaient dans le tabernacle, Samuel, au final, n'a pas fait beaucoup mieux en tant que père, et on l'apprendra plus loin dans le livre de Samuel, que ses fils n'étaient pas bien meilleurs que ceux d'Élie. Élie savait reconnaître la parole de Dieu et savait l'enseigner à son serviteur. Et c'est aussi ce que Samuel a probablement réussi à faire quand on voit les écoles de prophètes qui se multiplient dans un futur assez proche. Finalement, Élie et Samuel ne sont pas si différents en soi. Ils sont un peu comme chacun d'entre nous. Des serviteurs de Dieu qui se mettent à son écoute, mais qui n'y arrivent pas toujours, qui sont parfois faillibles. Et être à l'écoute de Dieu, c'est aussi être soi-même. C'est être cet homme, être cette femme, qui en tant que serviteur ou servante, est faillible. Mais c'est aussi se mettre au service, malgré nos imperfections, malgré notre passé, peut-être lourd, parce que Dieu qui est infaillible, nous accueille tels que nous sommes. Tous ici. Et en s'incarnant, en venant sur terre, le Christ est devenu comme nous. Être humain, tout en restant sans péché. Et le Christ, en venant parmi nous, s'est mis à notre écoute, à l'écoute du besoin de l'humanité d'être sauvé d'une éternité sans espoir et hors de sa présence. Et le Christ, en venant parmi nous, nous a rendu le service ultime. Il est devenu lui-même notre serviteur pour pouvoir nous écouter. Et lui seul est capable de tout entendre. J'aime beaucoup les psaumes. Les psaumes parce que ils reflètent le fait que l'homme peut tout dire à Dieu. Ils reflètent que Dieu peut entendre tout de l'homme. Alors pourquoi, s'il est là, si lui seul est capable d'écouter parfaitement, pourquoi ne pas toujours tout lui dire ? Pourquoi ne pas lui exprimer notre joie, notre louange, nos peurs, notre tristesse, notre colère ? Et les psaumes, on l'a dit, sont une grande aide pour ça. Parfois, on n'a pas les mots pour exprimer. Parfois, on n'ose pas exprimer à Dieu. Et puis, pourquoi ne pas continuer à se mettre en église, de façon communautaire, à son service ? Pourquoi ne pas continuer à se mettre en tant qu'église, à son écoute ? Et pour conclure, je vous invite à répondre à l'appel de Dieu en reprenant les mots et l'attitude de Samuel. On le dit ensemble. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen.